Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghettis.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon vendredi 13, j'espère que la chance est avec vous tout de même. Marianne Paquette pour vous accompagner au cours de cette émission de C'est bon pour la santé sur Canal M. En cette veille de la fête de l'amour, hein, vous savez, un sujet universel d'intérêt public. En fait, tout le monde s'intéresse à l'amour, que ce soit les sexologues, les psychologues, les artistes et les scientifiques aussi, parce que l'amour serait une réaction chimique, un cocktail d'hormones. Et comment ces hormones guident nos relations amoureuses, nos coups de foudre aussi? J'en parlerai en deuxième partie d'émission avec Jocelyne Gadboil, qui est infirmière. Maintenant, d'un point de vue plus sociologique, on peut dire que dans les dernières années, les dernières décennies, le couple a bien changé au Québec, pour le mieux, je dirais. Bon, c'est un avis pleinement personnel, mais ce que j'observe aussi, c'est que l'idéal du couple, la famille aussi, ça semble demeurer assez important, mais les relations sexuelles peuvent se faire hors des liens du mariage. Il y a des couples qui n'habiteront jamais ensemble. Et il y a aussi les nouvelles technologies de communication qui ont amené de nouvelles façons de se rencontrer. Donc, ce sont des nouvelles configurations amoureuses et elles ont un impact sur les relations conjugales. J'en parle avec Chiara Piazzesi, elle qui est professeure au département de sociologie de l'UQAM. Bonjour Chiara, merci beaucoup d'être là.
Bonjour Marianne.
Le couple me semble, et c'est une impression, vous me corrigez si je me trompe, un petit peu mélangé. D'un côté, il y a une abondance des sites de rencontres qui me dit qu'on a envie de rencontrer, qu'on a envie d'être amoureux. Mais en même temps, il y a beaucoup de divorces au Québec. À peu près un couple sur deux se sépare. C'est un peu à ne rien y comprendre.
Oui, il faut commencer par dire que le couple, comme nous les connaissons aujourd'hui, est une institution très jeune. En fait, c'est une trouvaille sociale très jeune. Et c'est grosso modo à partir du début du 19e siècle qu'on a commencé à concevoir le couple comme on le conçoit aujourd'hui, donc à rechercher le même type de gratification, le même type de bonheur, et surtout à rechercher un type d'union et d'intimité qui harmonise à la fois l'amour, donc les sentiments, la sexualité et l'entente sexuelle, donc la gratification aussi du point de vue de l'intimité sexuelle, et la domesticité, donc l'union de deux projets de vie et la cohabitation. Et évidemment, cette forme de relation intime est très délicate et très difficile, justement parce que on a commencé dès le début de son introduction, disons, de son succès, à y rentrer avec des attentes qui n'étaient pas celles qu'on portait dans le mariage traditionnel, le mariage dans lequel, en fait, on ne s'attendait pas d'être l'amante ou l'amant et la personne préférée du partenaire, du conjoint. Ce qui rend évidemment l'intimité comme nous la connaissons aujourd'hui très fragile, parce que les attentes par rapport au bonheur et par rapport aussi à l'épanouissement individuel à l'intérieur du couple sont extrêmement élevées. Et c'est, si vous voulez, les mêmes attentes de bonheur qui font toute la beauté et même, si vous voulez, aussi les mêmes occasions et possibilités de réaliser un bonheur commun qui font la beauté du couple moderne, qui en font aussi la fragilité, qui font la délicatesse.
Oui, et c'est peut-être dans cette recherche de bonheur-là qu'on a tenté, notamment dans les dernières années, de repenser le couple. Et ça nous amène à ce sujet qui m'intéresse aujourd'hui, les nouvelle configuration amoureuse. Oui. C'est, il y en a 6 à peu près, c'est ça, Chiara?
Oh non, il y en a, je pense, une panoplie.
Ah, il y en a plusieurs.
Je pense qu'il y en a un éventail énorme.
Autant qu'il y a de couples, finalement,
ouais,
et d'individus.
Oui, mais aussi autant qu'il y a d'expérimentations dans le domaine de l'intimité, des arrangements différents entre les personnes.
Mais dans ce texte, nouvelle configuration amoureuse, il y en avait à peu près 6 qui étaient répertoriés. Polyamour, je pense, il y en avait d'autres. Est-ce qu'on peut en nommer quelques-unes de ces nouvelles configurations-là?
Bien sûr, bien sûr. Pour commencer, je dirais que nous définissons, moi et mes collègues, de nouvelles configurations amoureuses, les relations, le type de relations qui prennent sous quelques aspects, que ce soit les distances de ces modèles dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le modèle du couple monogame exclusif, exclusif du point de vue de la sexualité, du point de vue du sentiment et du point de vue de la domesticité, donc de la cohabitation. Tout ce qui prend les distances de ce modèle-là compte parmi des configurations nouvelles, non pas parce qu'aujourd'hui on invente des choses qui n'existaient pas, parce que ben, vous voyez très bien que le fait d'avoir plusieurs partenaires a toujours existé, mais aujourd'hui ces configurations s'imposent comme des véritables tentatives de créer des formes différentes, de diversifier les possibilités de chercher un bonheur partagé, que ce soit pour un bout de chemin ou que ce soit pour la vie. Donc, de ce point de vue-là, vous nommiez justement le polyamour. Le polyamour qui est une catégorie en fait très vaste, est une définition qui regroupe tout ce qui sort de la monogamie et sûrement une nouvelle configuration qui s'impose de plus en plus. Il y a aussi des formes de relations qui sont moins engagées, surtout qui ne comportent pas ni l'engagement à long terme sur du point de vue social, si vous voulez, ni la cohabitation. Et il y a aussi des couples, par exemple, surtout quand il s'agit de deuxième mariage, deuxième couple engagé, si vous voulez, deuxième couple ayant une certaine importance dans le parcours personnel, qui décident de ne pas habiter ensemble, donc de partager certains moments de leur vie, mais pas la totalité de leur vie, et donc de ne pas avoir ce foyer commun qu'on reconnaît comme étant partie d'un mariage traditionnel.
J'ai l'impression que c'est l'émancipation de la femme qui a était l'un des facteurs principaux de ces changements-là.
Oui, je dirais l'émancipation, oui, et toutes les conséquences du point de vue social, social-démographique et juridique que l'émancipation, les luttes pour l'émancipation ont eues. Parce que, évidemment, les parcours d'émancipation de femmes ont aussi eu comme conséquence l'entrée massive des femmes dans les marchés du travail et aussi la revendication des femmes à une existence, une vie plus complexe qui ne s'épuise pas justement dans celle qu'on considérait jusqu'à il y a, je dirais, 70 ans, peut-être même 60, la mission naturelle de la femme, c'est-à-dire d'être épouse et mère. Mais justement une existence plus complexe qui comporte aussi des relations sociales diversifiées en dehors du mariage, une carrière professionnelle peut-être ou une indépendance financière et même une définition propre du bonheur, le droit à définir qu'est-ce qu'est pour moi le bonheur en tant que femme. Ça, c'est évidemment, ce sont des conquêtes assez récentes.
Et le plaisir sexuel aussi qui devient important pour la femme.
Ouais. Justement, ce que vous mentionnez, j'étais pour y arriver, en fait, parce que aussi le droit, la revendication du droit au plaisir, la participation ou au plaisir, à partager aussi la décision et la gestion de l'entente sexuelle. Et ça aussi, c'est un droit qui a été, qu'on a commencé à revendiquer, les femmes ont commencé à revendiqué, je dirais, massivement au 19e siècle. Donc, ce n'est pas vraiment seulement au 20e siècle, mais ça a pris énormément de temps pour que la morale et surtout les doubles standards soient, non pas modifiés complètement parce qu'ils ne le sont pas aujourd'hui mais atteints, affectés, transformés. en partie. Et évidemment, ceci a des conséquences majeures sur l'intimité parce que il est plus difficile, beaucoup plus difficile de faire accepter à une femme non seulement une union, une relation dans laquelle la sexualité n'est pas satisfaisante, oui. mais la justification qu'on utilisait avant, c'est-à-dire en tant qu'homme, en tant qu'époux, je me cherche d'autres relations oui. parce que la relation n'est pas satisfaisante. Mais pourquoi il ne devrait pas y avoir de réciprocité dans tout ça?
Voilà.
Et
oui,
voilà,
oui.
voilà la réponse négative à la monogamie, oui. à l'impératif, au stéréotype de la monogamie, disons.
Karen, le couple semble être sans cesse en mouvance, mais depuis quelques années, il y a les nouvelles technologies de communication aussi. Les sites de rencontres, oui, mais bon, plein d'autres formes pour communiquer, ça mmh. aussi, ça change les données.
Oui, ça change. Il y a en fait deux aspects qui sont les aspects que vous mettez en évidence. Le premier, c'est celui de la colonisation de l'espace intime et de l'espace existentiel en général par les nouvelles technologies, par les objets connectés. Ceci a évidemment des conséquences majeures sur le couple, sur sa communication. Il y a des... je ne voudrais pas dire des avantages, mais il y a des modifications qui vont dans le sens d'une augmentation des possibilités d'expression et donc de communication et même d'organisation de l'intimité. Mais il y a aussi des aspects qui sont plutôt fragilisants ouais. par rapport à l'intimité, justement, quand l'attention est détournée, par exemple, l'attention qu'on se porte l'un l'autre ou quand carrément les technologies et les objets connectés sont utilisés pour chercher d'autres types d'interactions avec d'autres partenaires potentiels.
Voilà.
Exactement.
Je vous cite, Karen, un des aspects fondamentaux de l'amour romantique, c'est d'être entièrement présent pour l'autre. Or, avec un objet connecté, comme un téléphone intelligent posé sur la table, l'autre est toujours un peu ailleurs. C'est tiré de ce texte-là qui m'a inspiré le sujet de Marie-Claude Bourdon. On le mettra en lien sur notre site Nouvelle Configuration Amoureuse. Et c'est vrai, ça, on a toujours un petit peu les tentacules ailleurs.
Ouais, ouais.
Et bien sûr, ça change un petit peu peut-être l'intérêt qu'on pourrait porter à l'autre. En fait, du moins, ça multiplie les possibilités.
Disons que peut-être ça ne change pas l'intérêt, mais ça change la manière de l'exprimer et aussi ça nous oblige à changer notre manière de percevoir l'expression de cet intérêt, ce qui veut dire que ça nous demande de la réflexivité, de la patience et peut-être aussi des stratagèmes, des stratégies pour contourner cette présence qui est désormais universelle et totalisante des technologies de communication. Donc j'imagine que chaque couple trouve la manière de s'arranger avec ça, mais cette problématique-là commence à devenir de plus en plus présente dans la réflexion qu'on fait sur sa propre intimité ou sur mm-hmm. l'intimité en général. Le deuxième aspect que vous mentionnez, c'est celui de la prolifération des sites de rencontres et des applications
oui.
de rencontres, mm-hmm. parce que... ça, disons, il ne s'agit pas nécessairement d'un phénomène nouveau parce que des services de médiation et de facilitation de rencontres romantiques ont toujours existé. Il y avait les petites annonces avant, il y avait des entremetteurs, il y avait des agences qui s'occupaient de créer des matchs possibles entre des profils des personnes, des clients. Ce qui est particulier du marché des sites de rencontres et des applications de rencontres, je dirais, c'est la grandeur du bassin, c'est mm-hmm. les dimensions du bassin ouais. de partenaires potentiels.
On n'est plus à rencontrer la fille qui habite dans notre rang, là, au bout
Exactement.
Du rang.
Exactement. Il y a en fait deux types. Il y a des applications de rencontres géolocalisées qui, en fait, essayent de vous mettre en contact
ouais,
avec
Tinder,
des personnes.
Par exemple.
Exactement.
Mm-hmm.
Tinder, Grindr pour la communauté gay, qui essayent justement de créer des contacts avec des personnes qui peuvent être plus proches de vous. Mais il y a aussi justement des bassins beaucoup plus grands qui sont ceux de certains sites de rencontres dans lesquels on peut puiser. Évidemment, les critères géographiques restera probablement toujours un critère important de sélection. Mais là, au moins, si vous voulez, du moins l'illusion, l'impression d'avoir devant soi une offre gigantesque de personnes disponibles à entamer des relations amoureuses de différents types est évidemment présente. Et ce qui est particulier aussi, c'est que les types de services, donc le marché des sites de rencontres, se diversifie beaucoup en fonction de la demande. Donc, oui. Il y a évidemment des services pensés pour des minorités culturelles, pour des minorités sexuelles.
Des gens aisés, des gens moins.
Exactement.
Oui, des gens mariés, maintenant.
Précisément, oui. il y a aussi ça, des gens mariés, des gens qui recherchent des relations clandestines. Il y a en plus toutes sortes de différenciation des relations recherchées. Donc, ce n'est plus seulement pour des relations à long terme engagées et potentiellement pour la vie, si vous voulez, mais ça peut être aussi pour des relations désengagées, désinvoltes, seulement pour des rencontres sexuelles ou tout simplement pour des activités à partager.
Oui. Chiara, le temps file à vue d'œil. Est-ce que être célibataire en 2015, c'est encore mal vu, c'est plus accepté? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de pression sur les gens qui vivent le célibat?
Je dirais que ça dépend. Ça dépend probablement des tranches d'âge et ça dépend aussi du genre de la personne, parce que je pense que la pression sur les femmes et sur les hommes reste encore un peu différente, la pression sociale. Ouais. Et il y a aussi, disons que être célibataire, probablement, ce n'est plus maintenant très stigmatisé, surtout pour les jeunes gens. Ça ne semble plus être un problème. Au moins, je n'ai pas d'études là-dessus, mais ça me semble une observation possible. Mais il y a encore des catégories de personnes qui souffrent énormément de leur célibat.
Oui.
Par exemple, les femmes à un certain âge, après, je dirais, la trentaine, 35 ans, surtout quand il y a un projet, évidemment, de maternité.
D'avoir des bébés,
un projet de famille qui est impliqué. Et ce sont aussi les personnes qui ont davantage de difficultés à entrer dans les marchés des rencontres.
Et en même temps, dans le livre « La sexualité humaine », c'est publié en 2009 par un collectif de psychologues et, je ne sais pas si vous connaissez Chiara, et de sexologues et de psychologues, il est dit que les couples heureux augmentent leur espérance de vie de 4 ans et diminuent leur probabilité d'être malade de 35 %. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant et ça peut amener justement de se dire, ben oui, il est peut-être là, mon bonheur. En terminant, Chiara, le couple en 2015. Quelles sont les priorités? À quoi pensent les couples de maintenant?
Je dirais qu'ils pensent beaucoup au bonheur, un type de bonheur qui est particulier, qui est défini par le couple même, et ils essayent de définir leur parcours et de se libérer aussi de toute une série de pressions et d'idées reçues qui peuvent entraver de quelque manière l'atteinte de ce bonheur.
Donc, de vivre le couple comme il nous semble bon de le faire.
Ouais.
Chiara Piazzesi, Vous êtes enseignante, professeure au département de sociologie de l'UQAM. Merci beaucoup. Et en terminant, avec vos collègues, vous êtes en train de mettre, je pense, sur place une étude, un groupe de recherche pour étudier tous les aspects des relations amoureuses, pour en savoir davantage comment on peut le faire.
Donc, les groupes de recherche s'appellent GEST. En fait, c'est les groupes d'études sur la sexualité, les transformations des environnements, des technologies des environnements sociaux. Et ils devraient avoir déjà un site web actif. Je vous enverrai les liens.
On le mettra bien sûr sur le site.
Mais ils commencent justement, ils viennent d'être créés, donc ils vont se faire de la publicité prochainement, j'imagine.
Merci Chiara, bonne Saint-Valentin.
Merci.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635 et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, /M.
Bonjour Jocelyne Gadebois.
Bonjour Marianne Paquette.
Vous êtes infirmière et quand vous m'avez proposé ce sujet-là par téléphone, j'ai raccroché et j'ai dit « Eh là là, on en apprend tous les jours ».
C'est vrai.
Les hormones qui guideraient nos états amoureux, ce qui veut dire que le cœur n'a rien à voir avec ça.
Pas initialement, non. Mais en conséquence, oui. Mais c'est vrai qu'on représente toujours l'amour par un très beau cœur.
Ben oui.
Mais c'est la Saint-Valentin, on voit des cœurs partout. Mais ça commence dans le cerveau, ça commence dans la tête. Ici, on n'est pas au niveau du comportement, on est au niveau de la physiologie, fonctionnement du cerveau.
Dont on ne se rend même pas compte, au fond.
Non, on ne s'en rend pas compte. Puis, il faut rappeler les trois fonctions du cerveau, là, comme organe global sur notre corps, puis ses effets. Alors, notre cerveau nous incite à l'action pour satisfaire un besoin. Deuxièmement, cette action sera récompensée par une sensation de plaisir à n'importe quel niveau, là. Et troisièmement, ce sentiment de satisfaction vient mettre un terme à l'action. Alors, notre cerveau, il est organisé pour créer l'action pour répondre à un besoin, apporter la récompense qui apporte un plaisir, une réponse au besoin, puis cet élément de satisfaction qui fait qu'on met un terme à l'action. Alors, ça, si on prend ça, ces trois éléments-là, puis on l'applique au niveau de l'amour, bien, c'est un besoin.
Oui, tout à
Alors,
fait.
Alors, on se met à l'action.
Peut-être pas pour tous, mais pour certains d'entre nous, bien sûr.
Oui.
Comment ça s'articule dans notre corps, ces hormones-là, quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît?
Bon, alors, quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, ce qui crée l'attraction, ce qui crée l'envoûtement, ça commence par la sécrétion d'une hormone que l'on appelle PEA. L'hormone PEA, c'est la phénylléthylamine. C'est pour ça que PEA...
Oui, c'est plus simple.
Plus simple. Elle est fabriquée dans une partie de la structure de notre cerveau quand nous sommes attirés physiquement par une personne. Alors, on est dans le physique, là, vraiment. Oui. Et c'est curieux et c'est étonnant parfois de comprendre comment notre corps s'adapte à ce point à des situations amoureuse ou autre.
Oui.
Alors, elle agit comme les amphétamines, par exemple, en réduisant l'appétit, les besoins de sommeil. Elle provoque de l'euphorie. On ne dort pas quand on est très attiré par quelqu'un, on est très excité. La bonne humeur, l'optimisme, l'hyperactivité.
Plein d'énergie, oui, oui.
Exactement. Oui. Alors, elle enlève des inhibitions. Ses effets sont semblables à de la drogue.
Oui.
C'est comme la drogue de l'amour.
Alors, il y a la PEA, il y a les phéromones aussi. Ça, c'est avant, pendant, on en entend souvent parler, les phéromones.
Les phéromones sont aussi des formes d'hormones. Et c'est aussi des neurotransmetteurs qui créent cela. Et on peut les retrouver à des niveaux comme la salive, où on peut les retrouver ou les sentir les phéromones d'une autre personne. De la même manière que les animaux se sentent.
Oui, oui, oui.
Alors, quand on est on a développé notre sens olfactif, le fait des baisers aussi, quand les deux salives se rencontrent, c'est aussi cette attraction-là qui est là. OK?
Et au même titre, si on n'aime pas le parfum ou l'odeur de quelqu'un, on ne sera pas attiré envers cette personne.
Absolument pas. Oh, absolument pas. Puis ça a été vérifié. Ça a été vérifié. Alors, quand on tombe amoureux, voilà, ça commence par cette hormone. Et quand on tombe amoureux, puis cette hormone PEA est très élevée, c'est une endorphine. On a déjà entendu le mot endorphine. Eh bien, il y a une baisse de la sérotonine.
Okay.
Parce que la sérotonine, qui est une autre hormone, qui est située aussi dans une partie du cerveau qui est sécrétée aussi par ces parties-là, la partie limbique du cerveau, en fait, la sérotonine, qui est une hormone qui donne le sens critique. Alors, c'est elle qui nous permet d'avoir ce sens critique. Quand elle n'est pas active, La sérotonine baisse parce que la PEA est haute.
Et l'autre personne est tellement merveilleuse, elle n'a pas de défaut, on la voit dans sa soupe.
Absolument pas, on ne les voit plus. Puis ça peut durer plusieurs jours et plusieurs semaines, cet état-là, parce que sa sérotonine est basse. Alors, cette sérotonine qui descend, c'est une endorphine qui ressemble un peu à la morphine, on pourrait dire. Elle calme, elle fait entrer aussi l'évolution de la relation dans une autre étape. Elle diminue l'anxiété aussi, puis elle peut aussi amener à l'attachement. Un autre niveau.
Donc, quand la PEA finit par baisser après quelques jours, quelques semaines, la sérotonine monte, on peut se reposer, notre sens critique revient un peu.
Exactement, vous avez tout compris.
Mais on peut s'attacher.
Oui.
Alors là, ça devient peut-être un peu plus calme, mais plus en profondeur notre relation.
C'est ça, c'est un bonheur tranquille qui peut durer des années si on passe le sevrage de cette fameuse hormone qui crée ce choc amoureux.
Oui, oui, oui.
Alors, il y a aussi d'autres hormones ou neurotransmetteurs. C'est les deux sortes de molécules. Il y a vasopressine. Elle, on la ressent physiquement beaucoup. Elle va créer une vasodilatation. Elle va augmenter notre pression artérielle. On va sentir notre cœur battre un petit peu. Pareil comme le stress, là, quand on est un petit peu stressé puis qu'on a des émotions physiques, des sensations physiques. Alors, celle-là, elle est aussi sécrétée en même temps que les autres. Et quand on passe à l'acte sexuel, elle est encore plus augmentée, celle-ci. Parce que dans les plateaux, dans la montée, l'excitation, le plateau, et ensuite, je dirais la descente, mais c'est pas ça que je veux dire, là, la restabilisation de ça, on voit que ces hormones-là jouent un rôle. Sur la vasodilatation, en tout cas, c'est sûr. C'est ce qui va créer l'érection chez l'homme, de toute façon.
Quand un couple, après plusieurs années de vie commune, quand l'attrait descend un petit peu, l'amour semble un peu flétrir, quelle serait votre prescription?
Oh mon Dieu, l'ocytocine! L'ocytocine! Alors, c'est une autre hormone qui s'installe exactement, qui elle aussi contribue au bonheur amoureux, tranquille. Puis, toutes ces hormones-là dont je viens de parler, ça peut diminuer tranquillement sur une longue période, 2 à 6 ans. Alors, les périodes critiques d'un couple, on dit toujours autour de 6 à 7 ans. OK. L'ocytocine, c'est une hormone féminine, entre autres, mais aussi chez les hommes. Et on sait que l'ocytocine, elle augmente la sensibilité au toucher. Et plus on se touche, plus on se caresse, plus on fait l'amour. On dit que faire l'amour 3 fois par semaine, ça garde son couple heureux. Bien, c'est vrai, c'est l'ocytocine qui poursuit l'attachement, c'est l'ocytocine qui continue son travail. Et plus on se touche, plus on en produit. Et c'est le même phénomène qui se passe chez l'homme, comme tel.
Et je pense que la maman en développe, en dégage également avec son petit.
Oui, parce que l'ocytocine, c'est une des hormones qui s'installe durant la grossesse, pendant l'allaitement, pendant le travail, pour diminuer l'anxiété, puis aider à diminuer la douleur aussi.
Et tout ça est extrêmement intéressant, Jocelyne Gadebois. Comment les hormones peuvent avoir un effet, guider nos relations amoureuses, nos coups de foudre et par la suite également notre couple plus à long terme. Un sujet, j'en ai beaucoup appris, je n'en savais absolument rien. Vous êtes comme une petite Cupidon aujourd'hui, Jocelyne Gadebois.
Merci,
on se retrouve dans 2 semaines. Joyeux Saint-Valentin à vous. Joyeux Saint-Valentin à Rémi Hermoso, à la mise en onde, à vous à la maison. Profitez-en pour passer la journée de demain avec des gens que vous aimez, à manger du chocolat.
Parce que ça stimule aussi.
Ça aussi, c'est bon pour la santé.
Oui, c'est prouvé.
Santé de l'âme également. C'est Marianne Paquette au micro. Je vous souhaite un très, très beau week-end. Prenez soin de vous, reposez-vous, amusez-vous. On se retrouve lundi. Bye-bye.